Bonjour, en tout cas, selon votre position, bonjour ou bonsoir, mes frères et sœurs. Que l'Éternel, notre Dieu, vous bénisse et nous garde tous dans ces temps périlleux que nous traversons. Aujourd'hui, donc, nous allons continuer notre verset de la semaine. Je rappelle que nous sommes dans le premier livre de Samuel, et nous entamons le chapitre 13. Voilà. Que j'ai intitulé et Shaoul échoua au test d'obéissance. Hier, quelqu'un m'a fait passer un message hier qui m'a beaucoup. En tout cas, apporté, qui m'a beaucoup fait du bien. Parce que le message dit, je l'ai aussi partagé avec tout le monde, que quand tu veux que Dieu accomplisse ses plans dans ta vie, donne-lui la possibilité de le faire à travers ton obéissance. C'est vrai, vrai, quoi. C'est vrai, vrai. C'est vraiment une parole de vérité. Et cette parole de vérité s'applique bien à ce qui s'est passé avec Shaoul. Voilà, il n'a pas su, hein, il n'a pas su donner l'occasion à l'Éternel d'accomplir ses plans dans sa vie en obéissant à la parole de Dieu. Donc il a échoué. Et c'est ce que, en substance, Samuel lui a dit. Voilà, tu n'as pas obéi, donc l'Éternel te rejette. Hein, c'est ce que Samuel lui a dit parce que il lui a dit dans le verset 14. Il a dit, tu as agi follement. Je vais lire dans la version hébraïque. Samuel. Et maintenant, t'as roté, ou bien. Samuel dit à Shaoul, tu as follement agi. Si tu avais gardé le commandement que je t'avais prescrit. Ce commandement donc se trouve dans 1 Samuel 8, le verset 10, où Samuel lui a dit de l'attendre pendant 7 jours à Gilgal. Vous pouvez lire vous-même. Hein. Il lui a dit dans le chapitre 10, le verset 8, de l'attendre à Gilgal. Voilà, je le relis. Le verset 8. Or, tu iras m'attendre à Gilgal, où je descendrai te rejoindre pour offrir des holocaustes, pour immoler des victimes rémunératoires. Pendant 7 jours, tu attendras mon arrivée, et je t'apprendrai alors ce que tu dois faire. Parce que Shaoul devait être consacré devant Dieu par un sacrifice pour que son règne soit établi. Il faut savoir que depuis la sortie d'Égypte jusqu'en. Oui. Voilà, depuis la sortie d'Égypte, hein, jusqu'à ce que le Seigneur Yeshua arrive, l'Éternel régnait sur le peuple. Et il y avait des sacrificateurs pour faire l'intermédiaire entre lui et le peuple. Maintenant, le peuple a demandé un roi. Donc, les sacrificateurs cumulaient quand même deux fonctions. Moïse aussi a cumulé au début, avant que Aaron ne soit consacré sacrificateur. Il était en quelque sorte le roi, le juge, il était tout l'intermédiaire entre l'Éternel Dieu et le peuple. Donc, l'Éternel Dieu, comme le peuple a demandé, a séparé les fonctions. Fonction de sacrificateur et fonction de royauté, de roi, qui est une autorité déléguée pour juger donc le peuple. Voilà, pour juger le peuple. Mais Shaoul a échoué à ce test d'obéissance. Donc, il n'a pas donné l'occasion à Dieu d'accomplir son plan. Et Samuel lui a bien dit que si tu avais gardé le commandement que je t'ai prescrit, l'Éternel ton Dieu, certes, l'Éternel aurait maintenu à jamais, voyez, à jamais ta royauté sur Israël. C'est ça. Hein? À jamais sur Israël. Et maintenant, ta royauté ne subsistera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur et l'a institué chef de son peuple parce que tu n'as pas respecté son commandement. Donc, c'est ça. Il faut savoir que Shaoul n'a pas été rejeté parce que il avait offert un sacrifice, c'est pas ça. Mais il n'a pas obéi au commandement. C'est un test que l'Éternel lui a fait pour voir si il obéirait. Parce que dans le chapitre précédent, Samuel a bien averti le peuple d'Israël que si il n'obéissait pas à la parole de Dieu, le peuple et le roi, hein, seront perdus. Dans le verset 25. Dans le verset 24, il dit surtout, révérez l'Éternel, servez-le sincèrement de tout votre cœur, en considérant les grandes choses qu'il a faites pour vous. Que si vous agissez mal, vous serez perdus, et vous et votre roi. Et vous et votre roi. Et vous et votre roi. Donc, ça a été dit, ce n'est pas parce que ils ont un roi qu'ils doivent s'affranchir des commandements de Dieu, de l'Éternel Dieu. D'accord? Voilà, c'est ce que l'Éternel, Samuel les a exhortés à faire, d'accomplir la parole de l'Éternel Dieu. Voilà, il a encore dit dans le verset 14, il a dit, à condition que vous révérez l'Éternel, que vous lui rendiez hommage et obéissance, que vous ne soyez pas rebelles à sa parole et que vous demeuriez, vous, comme le roi qui vous gouverne, fidèle à l'Éternel, votre Dieu. C'est ça, même le roi qui gouverne, voilà, doit obéir à la parole de Dieu. Et c'est ce test, que Shaoul n'a pas respecté. Vous voyez, Shaoul n'a pas su respecter cette parole-là. Il faut savoir que l'obéissance à l'Éternel Dieu est primordiale en toutes choses. Donc, dès le début, l'Éternel a voulu tester ce roi Shaoul pour voir son degré d'obéissance. Mais non, il a voulu s'auto-investir, s'auto-consacrer. Voilà, il a usurpé un rôle qui ne lui est pas attribué. Il faut savoir que d'autres rois aussi avaient offert des sacrifices, mais ils n'ont pas été rejetés par Dieu. Donc, c'est pas l'Éternel Dieu, c'est pas au niveau du sacrifice que le problème se pose. Par exemple, David, dans 2 Samuel 24, le verset 25, puis David bâtit là un autel à l'Éternel et offrit des holocaustes et des sacrifices de prospérité. L'Éternel fut apaisé envers le pays et la plaie fut arrêtée en Israël. Donc, et puis David aussi avait mangé des pains de proposition en urgence parce qu'il avait faim. Mais l'Éternel ne l'a pas puni parce que l'Éternel connaît son cœur. L'Éternel a vu les intentions de Shaoul. Il voulait régner en autocrate. Ce n'est pas au niveau des sacrifices. Ce n'est pas au niveau. Même Salomon, dans 1 Roi 8, le verset 64 à 65, nous avons vu que il y avait tellement de bêtes à immoler que le roi et certains membres du peuple, ou bien des lévites, ont dû aider à faire les sacrifices. 22 000 taureaux et 120 000 brebis. Hein? 120 000 brebis. Salomon et Salomon, le verset 63. Et Salomon immola pour le sacrifice de prospérité qu'il présenta à l'Éternel 22 000 taureaux et 120 000 brebis. Ainsi le roi et tous les enfants d'Israël firent la dédicace de la maison de l'Éternel. Voilà, donc c'est ça. En ce jour-là, le roi consacra le milieu du parvis devant la maison de l'Éternel, car il offrit là les holocaustes et les offrandes et les graisses des sacrifices de prospérité, parce que l'autel d'airain qui est devant l'Éternel était trop petit pour contenir les holocaustes et les offrandes et les graisses des sacrifices de prospérité. Donc nous voyons que ce n'est pas là le vrai problème. Le vrai problème, c'est l'obéissance, mes frères et sœurs. Revenons à l'obéissance. Quand l'Éternel te dit quelque chose de particulier, agis, fais-le. Ne critique pas, ne fais pas selon ta vision des choses. Obéis simplement et l'Éternel te récompensera. Au début de ce chapitre, bon, il faut dire qu'on ne connaît pas l'âge de l'accession au trône de Shaoul. Dans certaines versions, on trouve 30 ans parce que dans le livre d'Hébreux, l'Éternel avait, l'Esprit Saint a dit à travers Paul que Shaoul a régné pendant 40 ans. Donc avec les calculs, certains pensent qu'il avait accédé au trône à l'âge de 30 ans. Donc dans certaines versions, vous trouverez que Shaoul a accédé donc au trône à l'âge de 30 ans. Dans d'autres, il laisse trois points de suspension. Voilà, moi j'ai pris la version hébraïque hein, que je vais vous lire. Traduit, Shaoul comptait alors un an de règne. Chapitre 1 Samuel chapitre 13. Je rappelle que le livre de Samuel de roi fait partie des livres prophétiques. Ce n'est pas des livres historiques. Ce ne sont pas des livres historiques. Shaoul comptait alors un an de règne. Depuis 2 ans sur Israël, lorsqu'il leva 3 000 hommes en Israël, dont 2 000 sous ses ordres à Michmash et sur la montagne de Bethel, et 1 000 sous Jonathan de Gibea de Benjamin, pour le reste des hommes, il les renvoya dans leur foyer. Jonathan bâtit le poste des Philistins qui était à Geba, et les Philistins en furent informés. Shaoul le fit annoncer à son de corps dans tout le pays, se disant, il faut que les Hébreux le sachent. Tout Israël apprit donc que Shaoul avait battu le poste des Philistins, et qu'ainsi Israël s'était mis en état d'hostilité contre les Philistins. Alors le peuple courut se ranger autour de Shaoul à Gilgal. Les Philistins de leur côté se rassemblèrent pour combattre Israël avec 30 000 chariots, 6 000 cavaliers et une infanterie aussi nombreuse que le sable au bord de la mer. Et les Philistins dépassaient en nombre la capacité d'Israël à combattre. Donc seul l'Éternel Dieu pouvait détruire les Philistins, pourrait leur venir. Il faut avoir beaucoup de foi pour s'attaquer à cette armée. Ils allaient prendre position à Michmash, à l'orient des Beth Aven. Beth Aven veut dire maison de vaurien, maison de rien. Les Israélites, voyant leur position critique et effectivement, car le peuple était serré de près, se réfugiaient dans les cavernes, dans les buissons, dans les rochers, dans les donjons et les citernes. Des Hébreux passant le Jourdain gagnèrent le pays de Gad et de Galad. Cependant, Shaoul tenait encore à Gilgal et le reste de l'armée se rejoignit en toute hâte. Donc voilà, je lis simplement les 7 premiers versets, après je ne lirai plus. Tout compte fait, j'ai déjà donné l'essentiel du message que je devais donner. Donc, on voit d'abord l'attitude de Shaoul. Dans le verset 3 jusqu'au verset 4, Shaoul s'était attribué la victoire qui appartenait à son fils. Déjà, on voit son comportement. Pas d'humilité. C'est pas lui qui a fait le coup, qui a battu les Philistins. Même, je pense que c'est une leçon que l'Éternel est en train de lui donner. Parce que son fils innocent avait cette foi en l'Éternel Dieu. Son fils n'était pas orgueilleux en tant que héritier, ainsi de suite. Mais non, il avait fait confiance à l'Éternel Dieu. Et l'Éternel Dieu a permis qu'à travers Jonathan, Jonathan, qui veut dire l'Éternel a donné. Voilà, son nom est significatif. L'Éternel a donné. Il n'y a pas de prénom dans la Bible, il n'y a que des noms qui ont une signification. Il faut le savoir, chez les Hébreux, Jonathan, c'était son nom. Il ne s'appelait pas Jonathan Shaul, non. Jonathan, c'était son nom. Donc, l'Éternel montrait que Jonathan avait une bonne disposition vis-à-vis de lui. Donc, il montrait la voie à Shaul comme l'Éternel Dieu l'avait fait à travers Abel pour montrer la voie à Caïn. Voilà, à Caïn. Mais Shaul n'a pas... Il était trop centré sur lui-même. Il avait un ego démesuré. Il est devenu roi. Il était le plus beau, le plus grand, le plus ceci. Il dépassait tout en taille. Donc, ce qui fait que vraiment, il était imbu de lui-même. La preuve, la deuxième fois qu'il va encore désobéir gravement à l'Éternel Dieu, après cela, on lui a annoncé l'ascension, il est parti ériger une statue en son nom. C'est tout, quoi. Voilà, donc c'est ce qu'il a fait. Vous voyez, déjà, il s'était attribué quelque chose qui ne lui appartenait pas, qui ne lui revenait pas. L'humilité devait l'amener à dire à Israël que c'était son fils. Déjà là, on voit sa disposition à être centré sur lui-même. Il était centré sur lui-même, il n'était pas centré sur l'Éternel Dieu. Voilà, il était centré sur lui-même. Et voilà, et c'est ce qu'il a fait d'abord. Et en faisant cela, les Philistins qui étaient des peuples de la mer, qui étaient des colons, qui ont colonisé la côte du pays de Canaan jusqu'à Gaza, avaient une grande armée, maîtrisaient le fer, maîtrisaient des technologies, des chars, des cavaliers, ainsi de suite, des fantassins. Donc, techniquement, militairement, ils étaient supérieurs à Israël. Mais c'est vrai qu'il y avait une paix philistine, ou bien une pax, comme on dit, pax romana, pax philistine, qui était là. Et Israël payait des tribus, Israël était dominé par les Philistins, mais les Philistins n'arrivaient pas à occuper tout le pays. Je pense que c'est l'Éternel Dieu qui limitait leurs actions. Mais ils vivaient en bonne intelligence. En bonne intelligence, voilà, c'était des colons. Voilà, ils étaient sur la côte. Et quand Shaul s'est soulevé contre les Philistins, mais les Philistins ont rassemblé leur armée pour leur donner une bonne leçon. Vu le nombre de militaires, la victoire d'Israël était improbable. Franchement improbable. Militairement impossible, mais néanmoins ils avaient donc une puissance qui est supérieure à la puissance philistine. Quelqu'un a dit que l'Éternel Dieu plus une personne égale toujours la majorité. Égale la majorité. Donc voilà. Mais les Israélites et leur roi, le roi qui a été désigné, n'ont pas manifesté cette foi, cette confiance. La foi veut dire, emouna veut dire confiance. C'est le seul mot, en tout cas, il y en a d'autres. Je pense que les offrandes aussi, comme on appelle offrande en hébreu, je ne sais plus, mais emouna veut dire confiance. On peut lire le mot dans les deux sens. On peut le lire de droite à gauche et de, et de gauche à droite. Ça signifie la même chose. On peut le lire comme ça. La foi ou la confiance. Donc, les Israélites, voyant que leur situation devient difficile à tenir, ont commencé à fuir. C'est eux qui avaient demandé un roi, hein, qu'un roi soit devant eux, mais lorsque le roi a déclenché la guerre, ben, ils ont commencé à fuir. Ils se sont cachés. Ouais, le manque de foi, l'incrédulité nous humilie. L'incrédulité nous amène toujours à fuir, à être dans la crainte, à se cacher. Regardez, ils se sont cachés dans des cavernes, dans des buissons, dans des donjons, dans des citernes. Ils ont même passé de l'autre côté, puisque Shaul avait vaincu le roi Ammonite, qui est le Naash. Donc, il y avait une paix de l'autre côté du Jourdain. Hein? Voilà, de l'autre côté du Jourdain, à l'est du Jourdain, il y avait une paix. Donc, ils ont franchi le Jourdain pour passer de l'autre côté. De l'autre côté. Et Shaul, au début, a attendu 7 jours et le peuple. Et quand il a vu que le peuple se dispersait, que les gens, comme Samuel, n'arrivait pas, voilà, les gens de peu de foi se sont dispersés. Ouais, donc, et Shaul a pris peur. Nous avons vu que l'Éternel Dieu, il a dit qu'il sauve pas une petite armée pour que la victoire, pour que le peuple ne dise pas, ah oui, c'est pas ma propre force que j'ai gagné le combat. Il a fait avec Gédéon. Il n'est resté que 300 personnes. De la même manière ici, Shaul, en tout cas, était informé de cela. Il avait lu les archives des juges, et puis Samuel était là pour lui rappeler, pour l'enseigner, ainsi de suite. D'accord, même si les gens fuyaient, il ne leur restait que 6000 hommes ou 600, que 600 personnes, avec 600 personnes, et l'Éternel égale toujours la victoire, égale toujours la victoire. Il lui reste environ 600 hommes. 600 hommes. Donc, Shaul a pris peur. Il a pris peur et il s'est auto-consacré. Il a dit qu'il s'est fait violence. Il s'est fait violence, il a dit. Alors que l'ordre était clair, hein, d'attendre 7 jours. 7 jours. 7 jours. 7 jours, donc il a pris peur. La peur nous amène toujours à pécher contre l'Éternel Dieu, ou bien à faire quelque chose contraire à la parole de Dieu. Ils ont manqué de foi, et dès qu'il a achevé le sacrifice, Samuel s'était présenté. C'était un test jusqu'à la dernière minute. La foi, nous devons attendre. Vous voyez, j'aime bien le en tout cas, ça me donne de la foi. Les trois compagnons de Daniel, ils ont dit quelque chose au roi Nebuchadnezzar que nous devons aussi bien méditer. Vous savez, nous passons souvent sur la parole de Dieu sans la méditer en profondeur, sans la mouliner, sans la bien la mâcher, voilà, ruminer, ainsi de suite. Nous devons passer vraiment du temps sur la parole et y revenir quotidiennement, voilà, régulièrement, parce que la révélation est toujours progressive. Les trois compagnons de Daniel ont dit, ô roi, sache que nous ne servirons pas ton Dieu, que même si notre Dieu ne nous sauve pas. C'est ça ici. Que l'Éternel Dieu a fait une promesse. Comme il a fait la promesse, la Bible nous dit qu'il veille sur sa parole pour l'accomplir. Si l'Éternel Dieu t'a fait une promesse, sache qu'il va l'accomplir dans sa vie. Dans ta vie plutôt. Et ici, Shaul a pris peur. Shaul pensait que ce sont les sacrifices qui vont lui attirer les faveurs de l'Éternel. C'est la religion, ça. Beaucoup de gens pensent que en donnant la dîme, en allant à l'assemblée le dimanche, en faisant ça, ça va attirer les faveurs de l'Éternel. Ou bien même en jeûnant, ou bien en servant le pasteur, ou bien en donnant de l'argent, en faisant des dons de valeur aux responsables, ainsi de suite. Mais non, ça c'est la religion, ça. Yeshua n'est pas venu établir une religion. Beaucoup de gens disent qu'il est le fondateur du christianisme, mais non, c'est faux. Il n'a rien fondé du tout. Il n'a pas fondé le christianisme tel que nous le voyons aujourd'hui. Il est venu enseigner. Il est venu expliquer la Torah. Il est venu expliquer la parole de l'Éternel, de son Père. Il n'a jamais fondé une religion. Ce sont les hommes qui en ont fait une religion. C'est une relation. Il est venu nous mettre en relation avec l'Éternel Dieu. C'est pourquoi la Bible fait d'Abraham le père de la foi. Nous devons avoir cette foi d'Abraham, cette foi en action, où Abraham a cru à la promesse de l'Éternel Dieu sans l'avoir vue. De la même manière ici, Shaul et le peuple ont manqué de foi. À cause de ce manque de foi, de cette incrédulité, ils ont tout perdu. Ils ont tout perdu. Voilà. Des fois, nous aussi, mes frères et sœurs, faisons très attention. En tout cas, je ne sais pas combien d'opportunités j'ai perdues, mais je supplie l'Éternel de me pardonner si... C'est vrai que dans le passé, j'ai dû manquer des occasions. Shaul ici a manqué une occasion d'obéir à l'Éternel. Peut-être que toi aussi, nous avons tous. L'Éternel Dieu nous dit que nous avons des épreuves dans la vie, des tests dans la vie. Plus, l'Éternel Dieu a en vue de faire quelque chose avec toi, plus les difficultés qui vont, les épreuves qui seront sous ta route seront grandes. Si toi tu veux entrer dans les plans que l'Éternel Dieu a tracés pour toi, donc, comme nous dit cette parole, donne-lui la possibilité de le faire à travers ton obéissance. L'obéissance est capitale. C'est pour cela que l'Éternel Dieu, lorsque Shaul va commettre la deuxième faute, ouais, il va lui dire que les sacrifices ne sont rien, que l'Éternel Dieu est demande plutôt l'obéissance que le sacrifice. Vous savez, lorsque les Israélites étaient sortis d'Égypte, il est vrai que l'Éternel Dieu avait ordonné qu'on fasse des sacrifices, avait institué des rites, ainsi de suite, des rituels. Mais dans Jérémie, l'Éternel Dieu a dit quelque chose. J'oublie même le verset, quoi. C'est dans Jérémie. Attendez, je vous cherche ça. Je vais chercher ça. C'est dans Jérémie, ça m'est venu ici. Il a dit quelque chose qui n'a pas voulu de sacrifice. C'est dans Jérémie, vous voyez. C'est dans Jérémie, je vais voir dans... Je vais chercher. Il n'a pas voulu de sacrifice. Voilà, dans Jérémie 7, le verset 22. Lisons, Jérémie 7, le verset 22. Il dit, on va lire le verset 21. Ainsi a dit l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Ajoutez vos holocaustes à vos sacrifices et mangez-en la chair. Vous savez, les sacrifices, beaucoup de gens pensent que c'est pour l'Éternel Dieu. Non, c'est pour nous. Ces sacrifices d'animaux jouaient pour nous, l'intermédiaire nous couvrait notre péché. Et c'est ce que Yeshua, le sacrifice parfait, est venu faire. Et par son sang, nos péchés sont effacés. Alors que le sang des animaux couvrait, simplement nous permettait de nous présenter devant Dieu sans être complètement consumé, permettait au peuple, à l'époque, les Hébreux, de se présenter devant l'Éternel Dieu, sans mourir, sans être consumé, avec ce sang des animaux qui couvrait leurs péchés. Alors que le sang de Jésus efface nos péchés, voilà, et nous permet d'être en relation avec l'Éternel Dieu. Car je n'ai point parlé avec vos pères, et je ne leur ai point donné de commandement au jour où je les ai fait sortir d'Égypte, touchant les holocaustes et les sacrifices. Mais voici ce que je leur ai commandé. Écoutez ma voix, et je serai votre Dieu, et vous serez mon peuple. Marchez dans toutes les voies que je vous ordonne, afin que vous soyez heureux. C'est ça que l'Éternel a dit. Il ne s'agit pas de sacrifices et d'offrandes. L'Éternel n'a rien à faire avec ça. Le monde entier est pour tout l'univers, tous les animaux. Il a même dit que s'il voulait manger, il va prendre un animal sans demander au peuple. Tes offrandes, la garde là pour toi, mon frère et ma sœur. Si tu penses que par tes offrandes, tu peux amadouer l'Éternel Dieu, tu te trompes. Si tu penses que par tes rituels, si tu penses que par ton sacrifice, si tu penses que par tes œuvres, tu peux amadouer l'Éternel Dieu, tu te trompes. Ce qu'il veut, écoute et obéis. Shema en hébreu. En hébreu, le mot obéissance n'existe pas en tant que tel. Quand on écoute le mot écoute, déjà chemin, renferme la notion d'obéissance. C'est-à-dire écoute, obéis. C'est de l'obéissance en mettant main en pratique, mon frère et ma sœur. Vous voyez, c'est étrange ce verset. Car je n'ai point parlé avec vos pères et je ne leur ai point donné de commandement au jour où je les fis sortir du pays d'Égypte, touchant les holocaustes et les sacrifices. Mais voici ce que je leur ai commandé et dit, écoutez ma voix, je serai votre Dieu. Obéissez quoi? Et vous serez mon peuple, marchez dans toutes les voies que je vous ordonne, obéissance encore, afin que vous soyez heureux. Mais ils n'ont point écouté, ils n'ont point prêté l'oreille, ils ont suivi les conseils, l'obstination de leur mauvais cœur, comme ici Shaoul, et ils se sont tournés en arrière au lieu de venir à moi. Shaoul aussi avait la possibilité, parce que dans le chapitre suivant, on voit qu'il y avait aussi le petit-fils du sacrificateur Élie, qui avait l'éphod, et qui avait ce qu'on appelle l'Urim et le Thurin. L'Urim et Thurin, ou bien quelque chose comme ça, Urim et Thurim, qui permet de connaître la volonté de l'Éternel Dieu. Shaoul, le roi Shaoul, pouvait simplement interroger par ses instruments sans faire le sacrifice. Moi, je pense qu'il a voulu impressionner, il a voulu se consacrer, prendre tous les pouvoirs. Un autocrate, quoi. Un dictateur. Il veut tout prendre. La preuve, il va encore le faire en faisant faire un serment malencontreux ou maladroit à tout le peuple. Et il a failli exécuter son propre fils. N'eût été la vigilance du peuple, vous voyez, il aurait exécuté son propre fils. Vous voyez. Donc déjà, il a un caractère instable. Il n'est pas tout à fait disposé à se soumettre à l'Éternel Dieu. Il avait l'éphod, il avait l'urim et le thurim qui pouvaient interroger. Mais non, puisqu'il y avait un sacrificateur avec lui, qui est le petit-fils d'Élie qui était là avec lui. qui avait l'effort, il pouvait interroger, mais non, il n'a pas voulu. Hein? Et c'est pour cela que l'Éternel l'a rejeté. Jusqu'à maintenant, il y a eu toujours une querelle en Israël entre les partisans de Shaoul, du roi Shaoul, et les partisans de David. Ces partisans de Shaoul disent que Shaoul, ce sont des rabbins bien sûr, a été traité, n'a pas été bien traité. Hein? D'accord, mes frères et sœurs. Oh, voilà donc, nous allons nous arrêter ici, sinon le message risque d'être trop long. Que l'Éternel Dieu nous bénisse et nous donne la grâce de lui obéir en toutes choses, en toute occasion, bonne ou mauvaise. Amen et Amen.